Il est déjà l'heure, plus que l'heure, donc précision neuchâteloise oblige. On va commencer directement cette soirée, cette discussion pour laquelle je vous remercie d'être venus si nombreux au nom de l'Université de Neuchâtel et au nom de la ville qui nous accueille dans ce lieu, ce péristyle. Nous avons, une fois n'est pas coutume, délocalisé nos cafés scientifiques pour venir ici commémorer le 125e anniversaire de l'ILCF, l'Institut... alors, il faut que je prenne mon papier, parce que... Donc, l'Institut de langue et civilisation française, parce que je ne sais jamais dans quel ordre ça va. Voilà, l'Institut de langue et civilisation française, dont je salue la présence du directeur dans la salle, monsieur Loris Petris. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes ici au cœur de cette exposition que vous avez déjà pu parcourir. Pour certains d'entre vous, c'est l'exposition qui est consacrée au regard d'étudiants non francophones qui ont précisément fréquenté les cours de l'ILCF et qui sont venus nous faire partager leur regard, leur vision de Neuchâtel avec leur passé, leur vécu. Et cette exposition nous invite évidemment au dialogue, dialogue qui se caractérise et qui se matérialise par cette discussion de ce soir, ce café scientifique. Alors, choc des cultures, avons-nous écrit de manière volontairement un peu provocatrice, ou cohésion multiculturelle, quel scénario pour l'avenir des migrants? Comment voyons-nous les uns les autres le rôle de la culture, et pas seulement de la langue, on va sûrement parler de ces différences, dans les processus d'intégration des étrangers? Nous allons en débattre avec nos 5 invités, qui, comme selon la coutume des cafés scientifiques, vont maintenant se présenter tour à tour, très brièvement, en disant ce pourquoi ils ont été interpellés par cette soirée, par la thématique, et pour laquelle ils nous ont fait l'honneur de venir à la table des intervenants. Alors peut-être commencer par ma droite, monsieur Xavier Chalande.
Bonsoir à tous, je m'appelle Xavier Chalande, je suis le président du Grand Conseil Neuchâtelois pour l'année 2016-2017. Et puis j'ai été interpellé par ce café scientifique sur le thème de l'intégration parce que je suis donc président du Grand Conseil UDC. Puis c'est des questions, alors le parti a une position assez arrêtée là-dessus, mais je crois qu'il faut, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir voir l'avenir, un petit peu s'ouvrir, je dirais, au reste du monde et puis communiquer. Voilà, c'est pour ça que j'ai été interpellé par cette soirée.
Merci beaucoup.
Voilà, je m'appelle Karine Skoupienne-Dekens, je suis professeure à l'Institut de langue et civilisation française, non seulement professeure de langue, mais aussi de ce que nous appelons civilisation, histoire, culture, et c'est justement en fonction de cet enseignement, de toutes les expériences que j'ai pu avoir avec les étudiants pour l'intégration, que j'ai suggéré qu'on choisisse ce sujet pour le café scientifique. Voilà.
Donc c'est l'instigatrice de cette soirée. Voilà. Merci Karine.
Bonsoir, mon nom est Gianni D'Amato, je suis professeur à l'Université de Neuchâtel pour les questions de la migration et de la citoyenneté. Je dirige en outre le Forum Suisse pour l'étude des migrations et de la population, et en plus aussi le pôle de recherche national sur les questions de migration et de mobilité. Et je présume qu'à cause des recherches, j'étais invité ici à dialoguer avec vous. Merci.
Sarah.
Oui, bonjour. Donc, je suis Zahra Banisadr, je suis iranienne de naissance. Donc, je suis à Neuchâtel depuis une vingtaine d'années. Je travaille au COSM, mais là, je suis à titre privé parce que donc, j'ai créé avec d'autres amis deux associations culturelles. Et voilà, ça m'interpelle.
Thomas Facchinetti, bonsoir. Moi, j'ai été doublement interpellé par le fait que l'Institut de langue et civilisation française fêtait son anniversaire cette année, un anniversaire important, et que, ce qui est quand même assez rare, dans le nom de l'Institut, il y a civilisation. Et le titre « Choc des civilisations », ça m'a un peu intrigué, parce qu'il y a 20 ans, 21 ans, Samuel Huntington a sorti un livre
avec qui a fait pas mal de débats, qui s'appelait justement le choc des civilisations. Alors, on est passé du choc des civilisations au choc des cultures, toute une histoire à ça. Voilà, ça m'intéressait. Puis du coup, je voulais aussi tester ma capacité d'intégration à la Suisse et de ponctualité. J'y ai réussi presque.
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord situer un peu mieux le sujet, cerner un peu mieux le sujet, avec peut-être l'instigatrice justement de ce débat, Karin Skoupien-Dekens. Je voulais vous demander pourquoi avoir choisi ce thème de culture dans les processus de migration, et peut-être d'abord de parler, qu'est-ce qu'on entend par ce mot de culture, d'après vous ?
Merci. Alors, en réfléchissant au thème de cette soirée, évidemment, on aurait pu choisir quelque chose sur la langue qui semblait couler de source, une évidence. Mais justement, je trouvais que c'était un petit peu trop évident de parler de la langue pour s'intégrer. C'est tellement normal. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, on oublie parfois que pour apprendre une langue, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'intertexte. Quand on entend quelque chose, nous qui venons d'ici, ça nous rappelle quelque chose d'autre parce qu'on a été éduqué dans cette culture. Donc ce sont toutes des choses qu'il faut transmettre aux apprenants de la langue, aux migrants, en tout cas à nos étudiants à l'ILCF. Et il me semblait que c'était intéressant de débattre de la place de cette culture pour l'intégration. Donc culture, c'est pas seulement l'histoire, c'est pas seulement la littérature. Je dirais que c'est un petit peu tout ce qui est dans l'air, qui nous semble évident à nous qui sommes nés ici, mais qui ne l'est pas forcément pour ceux qui viennent de l'étranger.
C'est quoi ? C'est les gestes quotidiens ? C'est la façon de se présenter, de sortir, d'interagir entre les gens.
Ça peut être le calendrier, ça peut être la mentalité. Pourquoi est-ce que en Suisse, une chose qui fait beaucoup rire les étudiants, c'est quand on leur dit qu'on peut pas faire la lessive après 10 heures le soir, par exemple, des choses comme ça. Bah bon, on peut toujours expliquer ça en parlant d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu au XVIe siècle. Donc voilà, c'est pas seulement des événements ou des choses à connaître, mais c'est des choses à comprendre. Surtout.
Alors, à côté de vous, j'ai envie de donner la parole au professeur Gianni D'Amato. Pour mieux fixer les idées, je vous avais proposé cette question. Est-ce que vous pouvez esquisser les étapes marquantes des vagues d'immigration vers la Suisse au cours du dernier siècle en très grandes lignes, de dire de quel pays ces gens venaient, pourquoi ils venaient? Et pour ça, pour avoir déjà une petite esquisse historique qui va nous aider d'ailleurs à comprendre aussi l'exposition ici, puisque nous avons aussi cette réflexion dans l'exposition avec les différentes nationalités qui venaient suivre le cours de ce qui s'appelait à l'époque le séminaire de français moderne. Voilà.
Oui, merci. Donc, moi, je commence pas avec... le Moyen-Âge, je dirais que...
Le dernier siècle, ça suffira.
Oui, ce qui est devenu intéressant pour la Suisse, c'est naturellement l'industrialisation dans le dernier tiers du 19e siècle. Et là a commencé aussi l'immigration moderne vers la Suisse, assez vite, dans les années 60-70, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Moi, je dirais que dans cette phase libérale, c'était la grande époque de la première immigration de libre circulation avec des contrats multilatérales de la Suisse avec les autres pays européens. Et 1914, il y avait, disons, 15% d'étrangers, comme on disait à l'époque, de présence étrangère en Suisse. Durant le changement du siècle, il y a eu déjà un grand débat sur quoi faire avec cette présence plus forte vers la Suisse. Il y avait deux idées. Il faut sauver la Suisse et donner la Suisse aux Suisses. Ou les autres, il faut insérer le jus soli pour naturaliser facilement la deuxième et la troisième génération de ces gens. La Première Guerre mondiale a amené un changement paradigmatique de la culture politique en Suisse, donc tous un projet de préservation de la lutte contre la surpopulation étrangère, contre le Überfremdung a gagné, et ça a amené à une loi sur l'établissement des étrangers qui devait prévenir la présence des étrangers vers la Suisse, et ça durait grosso modo jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a eu des fortes contraintes parce qu'il y a eu une take-off économique fort prévue pour la Suisse, mais il y avait cette contrainte légale. Donc, le système qui a suivi jusqu'aux années 80, c'était celui de la rotation. Donc, des saisonniers qui, à peine, pouvaient devenir annuels, après des résidents permanents. Dans les années 90, il y a eu un changement fort, une réflexion de changer les politiques. L'idée, c'était de garantir à ceux qui étaient de proximité culturelle une immigration plus facilitée et de fermer les portes vis-à-vis de pays, de ces ressortissants de pays tiers. Et ça, c'était, disons, la politique qui s'est réalisée avec les accords bilatéraux. C'était aussi en part la politique qui est pratiquée dans l'Union européenne. Donc, ouverture vers les partenaires européens, fermeture ou seulement immigration hautement qualifiée vis-à-vis des autres. Le 9 février 14 et les délibérations qui ont été prises par le Conseil fédéral et le Parlement l'année passée montrent aussi maintenant une incertitude vis-à-vis de cette politique, au moins le besoin d'une nouvelle interprétation et surtout aussi le besoin d'une nouvelle négociation avec l'Union européenne. C'est pour le rendre bref, disons.
Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Thomas Facchinetti. Alors vous, ce qui m'a inspiré, c'est déjà votre titre de conseiller communal de Dicaster dont vous vous occupez. Vous êtes en plein dans le débat, hein. Culture et intégration. Donc, par rapport à ça, en tant que représentant de cette ville de Neuchâtel, est-ce que vous avez quelques exemples emblématiques de politiques d'intégration qui soient en lien avec la culture au niveau de notre région ?
Oui.
Heureusement.
Déjà, le point de départ, la posture initiale, qui est celle de dire, qui est une posture quand même culturelle, qui est une posture d'accueil et d'hospitalité, c'est de se dire, mais au fond, des gens viennent à Neuchâtel, eh bien, on est d'abord content qu'ils viennent, et lorsqu'ils viennent, on le leur dit, on le leur exprime, on leur dit, bienvenue à Neuchâtel. C'est une première posture, je dirais, d'ouverture, et on prend l'initiative, concrètement, d'aller vers les gens. On n'attend pas qu'eux fassent le premier pas. Je dirais, ça aussi, c'est une posture culturelle qui est celle de dire, ben, on fait, nous, dans le paradigme d'hospitalité, on fait, nous, le premier pas. Concrètement, quelqu'un qui vient s'installer à Neuchâtel depuis les années 2000, 2002, eh bien, il reçoit, lorsqu'il s'annonce au contrôle de l'habitant, il reçoit un document qui est celui-ci, qui s'appelle Charte de la citoyenneté, avec toute une série d'autres documents, qu'il soit étranger, étranger au sens d'étranger au pays, un non-suisse, mais qui vienne d'un autre canton ou d'une autre commune. Et puis, peu de temps après, il reçoit un message de bienvenue, qui est traduit dans une dizaine de langues, auprès de ces personnes. Et simplement, le conseil communal leur dit ben, « Bienvenue à Neuchâtel », puis leur donne quelques indications, un bureau où s'adresser s'ils veulent des renseignements complémentaires. Et puis, ensuite, ces personnes sont conviées à une réception, Temple du Bas, à Neuchâtel, bâtiment de la ville, où, encore une fois, le message principal est celui de la bienvenue. Et là, cette fois, c'est incarné, les autorités sont présentes in corpore, le message est délivré par l'autorité, et puis on a aussi, et c'est assez emblématique, on a une douzaine d'interprètes qui souhaitent la bienvenue dans une douzaine de langues, qui sont à peu près les 90, qui touchent à peu près 95% de ce que les gens peuvent comprendre comme langue dans le canton de Neuchâtel. Et puis, au fond, qu'il y ait des locuteurs de cette langue dans la salle ou pas, on le fait comme symbole de dire, ben, quelqu'un qui vient ici, ben, on s'adresse à lui dans sa langue, mais on s'adresse aussi dans la langue d'autres. Et qu'il y a là un pluralisme linguistique important. En parallèle, bien sûr, qu'on fait la promotion de l'apprentissage de la langue française, on met à disposition toutes les ressources pour apprendre la langue. Et puis ensuite, ces personnes sont conviées à des visites commentées de la ville pour un peu savoir qu'est-ce qui se passe, un peu connaître l'histoire. Bref, il y a tout un programme qui se met en place avec cette impulsion initiale de dire c'est la ville qui prend l'initiative de dire bonjour, bienvenue, participez. Et bien sûr, après, les gens font ce qu'ils veulent.
ils acceptent pas. Mais enfin, il y a cette posture-là. Et puis après, il y a toutes sortes de programmes concrets ou plus symboliques, comme un prix de la citoyenneté qu'on a remis il y a en décembre de l'année passée, pour la troisième fois. Et puis, c'est un jury totalement indépendant de la ville qui récompense des personnes, des groupes qui sont méritantes au sens de la citoyenneté. Alors, c'est pas forcément des prix Nobel, quoique parfois, on pourrait se demander. Mais enfin, voilà. Et ce que j'observe, c'est que ce jury indépendant, jusqu'à présent, il a toujours mis en avant des organisations, des personnes qui font œuvre de citoyenneté au sens large et qui souvent sont liées à la migration. D'ailleurs, vous avez la chance d'avoir parmi vous ce soir une des lauréates de ce prix qui est à mes côtés. Voilà en quelques mots, mais je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les actions, mais peut-être aussi parfois des actions qui sont polémiques, comme le fait qu'on ait, par exemple, l'année passée, remis ce prix de la citoyenneté à une association, l'association Lamar, qui a commencé à se faire connaître en occupant, disons de manière illégale, un bâtiment de la ville pour tirer la sonnette d'alarme sur les problématiques graves d'accueil des réfugiés. Et puis, voilà, tirer la sonnette d'alarme. Et puis, malgré l'illégalité de cette action un peu coup de cœur, bien, le prix a été donné, ça crée un peu des vagues, des polémiques, en se disant, ouh là là, vous récompensez les gens qui sont de l'illégalité. Bon, moyennement illégal, disons, mais surtout, ils se sont très vite mis en conformité. Enfin, on s'est dit, là, il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des polémiques, mais tant pis, on doit aller de l'avant, il y a des problèmes à résoudre, il y a des conflits en matière de culture, de migration, eh bien, on les empoigne le plus sereinement possible.
Merci beaucoup. Je voudrais avoir aussi un autre avis qui est peut-être pas directement lié aux fonctions politiques qu'il occupe aujourd'hui, mais c'est celui de Xavier Jalande, puisqu'il a, il vous l'a dit, il est député UDC, il est président du Grand Conseil, mais aussi vigneron en caveur. Il a oublié de mentionner peut-être de manière modeste cette autre activité qu'il occupe. Et là, c'est traditionnellement, je dirais, un secteur qui a occupé de tout temps de la main-d'œuvre étrangère dans notre pays. Enfin, moi-même, j'ai des souvenirs de vendanges que je faisais en étant adolescent, où il y avait des migrants italiens à foison qui venaient cueillir le raisin de nos vignes. Est-ce que cette situation, comment a évolué cette situation aujourd'hui dans ce métier-là de la vigne?
Alors, tout d'abord, c'est clair que UDC Vigneron, c'est une fonction très compatible. Je crois qu'il faut aussi rappeler que dans les métiers de la terre, comme dans d'autres métiers, on parle souvent des métiers du bâtiment, les communautés étrangères nous ont beaucoup aidé à développer notre région. C'est toujours très important maintenant. Et puis, ce qui est aussi important, je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs qu'il y a eu avec les premières communautés. Par exemple, dans la viticulture, il y a eu beaucoup la communauté italienne qui est venue dans les années 70 pour nous prêter main forte. Et puis, il y a eu peut-être des erreurs d'intégration qui ont été faites avec cette communauté. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est de vraiment tirer un bilan pour ne pas répéter ces mêmes erreurs-là. Ce qui est aussi important pour l'intégration de ces communautés, je dirais que c'est le facteur temps, parce qu'on ne s'intègre pas comme ça en un claquement de doigts, en deux minutes. Mais aussi, ce qui est vraiment très important, à mon avis, c'est là de communiquer et puis de pas rester ignorant. Maintenant, c'est vrai que dans la viticulture, par exemple, on a toujours des communautés étrangères qui viennent travailler. Alors, plutôt saisonniers, parce qu'avant, ils restaient toute l'année. Maintenant, c'est plutôt des facteurs saisonniers. Et puis, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'on communique avec eux et puis qu'on les aide à s'intégrer quand ils arrivent ici. Parce que, encore une fois, je dis, ils contribuent au développement de notre région, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie.
C'est des gens de quel pays, aujourd'hui, qui viennent dans la viticulture?
Alors, aujourd'hui, je dirais qu'ils viennent comme saisonniers. On a plutôt des gens espagnols ou de la communauté portugaise qui viennent nous prêter main forte.
C'est quand même encore des Européens, et plutôt très proches de nos cultures, en fait.
Alors, qu'ils sont très proches de nos cultures, mais on voit qui s'intègrent quand même, et puis on voit quand même deux, trois différences. Parliez avant de la façon de prendre les 10 heures, et je trouvais que c'est très intéressant cette discussion qu'on a eue avant. Et puis, oui, je crois qu'il faut vraiment dialoguer avec eux. Et puis, moi, comme j'ai fait justement le CFC de Vigneron, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui venaient d'ailleurs, et j'ai, en communiquant avec eux, appris aussi plein de choses. Donc c'est vraiment des échanges qui se font journaliers, et puis c'est ça qui est très important.
Merci pour ce témoignage plutôt personnel. Et on va rester dans les témoignages un peu personnels. l'Arsène s'invite. Oui, c'est difficile de trouver une place. Oui, je vais peut-être éviter d'être sous. Léo, parlant, sinon je vois pas les gens. Bon, je vais me mettre vers la colonne en espérant ne pas perdre de vue Madame Zahra Banisadr, que j'invite maintenant à apporter son témoignage. Vous l'avez dit, vous êtes née en Iran, vous avez migré assez vite pour des raisons familiales et plus, mais vous nous direz sûrement deux mots. Pour lever toute ambiguïté, c'est bien la fille de Monsieur Banisadr, ancien président de l'Iran, que nous avons le privilège d'accueillir, mais je pense qu'elle va plutôt parler de ses projets qui l'occupent. Et moi, avant de parler de ses projets, je voudrais qu'elle témoigne ici de ce qu'ont apporté ces différentes cultures qu'elle a eu l'occasion de fréquenter et qui ont forgé la personnalité qu'elle a aujourd'hui et ses ambitions d'aujourd'hui. Alors,
oui, donc je suis pas née en Iran, je suis née à Paris.
D'accord, ok. Autant pour moi.
Donc, je suis née à Paris dans les années 60. Et du fait que mes parents ont été contraints à l'exil, donc ce n'était pas un choix de vie, c'était une contrainte. Et en fait, là, on a donné tout à l'heure une définition de la culture, mais moi, je vois la culture d'une manière beaucoup plus large. Et ce qui fait que je peux m'adapter à toutes les situations, c'est que, alors c'est mon contexte familial, mais on a été éduqués avec des valeurs très très fortes, notamment tout ce qui est droits fondamentaux, pour nous c'est essentiel, et je pense qu'avec ces valeurs essentielles, on peut s'adapter partout, et on se sent jamais étranger ou étrangère. Et puis, deuxième chose, c'est que on a toujours été éduqués avec l'espoir du retour. Donc, on n'a pas ce souci d'intégration, on s'adapte à tout, mais on veut pas forcément s'intégrer comme on l'entend ici. Donc, on participe à la vie de la cité, on participe à la vie culturelle, politique et tout, mais on n'a pas, ce sentiment qu'il faut absolument s'intégrer. Donc voilà, j'ai la culture pour moi, donc c'est pas seulement l'art et l'histoire, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ces valeurs, mais c'est aussi les spécificités de mon pays d'origine, les particularités, et puis donc toute ma jeunesse à Paris qui m'a apporté tout ce que je sais, quoi, toute mon éducation universitaire. Et ce que j'ai trouvé à Neuchâtel, que je n'ai trouvé ni à Paris ni en Iran, parce que j'y suis allée quelques fois, c'est cet espace de liberté qui m'a permis de créer des projets grâce à des rencontres qui ont été essentielles dans ma vie. Et ces interactions donc avec ces personnes, ces amis de différents horizons, qui m'ont permis cette liberté que j'ai eue de proposer des projets qui ont été soutenus et et ça aussi c'est de la créativité, de la culture, ce qui me...
Peut-être en dire deux mots de ces projets, graines de citoyens,
oui,
c'est ça, graines de
donc,
génie.
Oui, le printemps culturel.
Le printemps culturel, voilà. Bien sûr.
Donc le printemps culturel, qui est une manifestation qu'on a commencé en 2015 avec, à la base, c'était essentiellement des femmes, des institutions culturelles, et on a eu la chance d'avoir le soutien donc de la ville de Neuchâtel. Il y a Monsieur Neuenschwander qui est juste en face de moi, qui nous ont soutenus avec la ville de La Chaux-de-Fonds, puis la loterie romande, puis. Ça a pris de l'ampleur. Cette année, on va commencer Carrefour Sarajevo avec la majeure partie des acteurs culturels du canton. Et puis aussi Graines de génie. On a eu l'idée en 2011 avec le millénaire de la ville de Neuchâtel. J'étais intriguée de voir que beaucoup de Neuchâtelois ne connaissaient pas leur histoire, leur passé. Et puis, je posais des questions, mais j'avais pas la réponse. Et puis, je me suis dit, on fête le millénaire, ça serait bien de connaître aussi son passé. Donc, on a invité à l'époque des acteurs politiques, culturels du canton, et on a invité les écoles à participer. Et puis, le projet est né de cet anniversaire des 1000 ans de Neuchâtel. Voilà.
Merci beaucoup. Alors voilà, la discussion est lancée. Vous êtes très très nombreux, donc je suppose que vous piaffez d'impatience de poser des questions. Je donne la parole déjà à la salle. Qu'est-ce qui veut se lancer pour un commentaire après ce premier tour de table qui vous permet de voir un peu les différents profils et les différentes passions? Oui, madame, attendez, je viens avec le micro parce que cette émission, ça y est, je m'y crois déjà. Cette discussion est enregistrée et vous pouvez la retrouver sur nos pages web.
Merci. Vous faisiez référence tout à l'heure à des erreurs faites dans l'intégration de certains migrants. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique et puis nous donner finalement des clés peut-être? Est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'intégrer de nos jours, alors à Neuchâtel ou ailleurs d'ailleurs?
Mais je crois qu'une des principales clés que j'ai données avant, c'est lutter contre l'ignorance. On doit aller vers ces communautés parce que finalement, les arrivées ici, c'est assez dur en général pour quelqu'un qui vient d'un autre pays. Puis plus le pays est éloigné en général, plus c'est dur parce que c'est une autre culture que nous, peut-être une autre éducation, un autre rythme de vie aussi. Et puis, quand ils arrivent, c'est vraiment à nous, je crois, d'aller vers eux et de discuter avec eux et puis de partager peut-être aussi pour apprendre quelle est leur culture, quel est leur rythme de vie et puis leur dire, ben ici on fait un petit peu autrement, on parlait avant de pas faire de lessive après 10 heures, mais c'est vraiment communiquer. Et je crois vraiment la clé principale, la solution, c'est vraiment la communication et lutter contre l'ignorance. Je pense que c'est ça qui est très important.
Est-ce que quelqu'un... Oui. Sentez-vous libre de continuer sur la question, je pense que c'est important.
Disons, la question de l'intégration est maintenant, je dirais, le grand débat en Europe. Mais quand même, il faut aussi faire un peu attention quand on parle de culture. Culture vue comme, disons, un système de symboles, aussi de pratiques pour agir ensemble. La question est donc qui agisse ? Qui est le nous et qui sont les autres? Les politiques d'immigration jusqu'à maintenant ont été capables de clarifier ça assez vite. Donc, le nous sont les citoyens et nous sommes pas tous égaux, naturellement. Nous avons tous notre individualisme. Il y a les régions, les cantons, il y a les religions suisses. Là, on peut, disons, avoir une grande variation. Et après, il y a les autres et les autres sont souvent vus avec une lecture assez communautaire. Là, il faut les intégrer à nous. Et moi, je dirais, il faut faire un peu attention. Moi, je partage votre opinion par rapport au dialogue. Moi, je trouve que ça, c'est important. Mais la moyen de comment la Suisse s'est intégrée au 19e siècle, parce que là, il y avait aussi beaucoup d'exclusions, soit par classe, soit par genre, soit par religion, non? La Suisse n'est pas, disons, un miracle qui est né avec la révolution de 48, mais c'était un développement qui était un développement qui excluait, qui était en train d'exclure beaucoup de gens, mais de pas en pas, avec décades et décades, était plus en plus inclusif. Donc c'est dans ce processus, il faut aussi réfléchir de comment ça s'est marché, et la clé suisse pour intégrer était toujours la citoyenneté. Donc l'inclusion dans des chartes de ce type, naturellement, dans une vision commune de comment partager le futur ensemble.
Merci.
Bon, au titre des erreurs, quand même, mentionner des erreurs qui se répètent souvent en Suisse, mais aussi ailleurs, et autour de la xénophobie. Moi, je suis né en Allemagne, une mère allemande, d'un père italien, puis quand je me suis retrouvé en Suisse, enfant, j'étais dans les années 70, et j'ai vécu toute la période des initiatives Schwarzenbach. Et là, à un moment donné, on a voté en votation, scrutin populaire pour renvoyer 1,5 million, hein, c'est à peu près le nombre, 1,5 million, c'était essentiellement des Italiens, dans leur pays. Et les gars et les dames étaient parfaitement intégrés professionnellement, participaient à l'essor économique, ils ont construit, on leur doit tout ce qu'on leur remercie aujourd'hui. Enfin, à l'époque, on jugeait que leur place n'était pas là, quand bien même ils étaient profondément intégrés professionnellement et souvent aussi socialement. Et moi, gamin, j'ai vécu ça. Moi, j'étais à l'école, je comprenais pas ce qui se passait. Des copains me disaient, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bientôt rentrer et tout. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ici dans ce pays? Moi, je voyais mes copains, puis tout d'un coup, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'étais italien. Bon, ça, je le savais, mais j'en faisais pas un fromage. Et puis, tout d'un coup, je commence à prendre conscience par les discussions de mes parents qui se disaient « Mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait? Si on va devoir partir ou pas ?» Bref, ça a été rejeté, parfois de justesse, parfois de manière très forte. Enfin, ça m'avait marqué. Ça marquait quand même des générations entières de populations issues de la migration dans ces années-là. Et c'est quand même dur de sentir ce rejet, de se dire « Oui, un bout ». Mais peut-être pas complètement, et on veut bien prendre votre force de travail, mais faut peut-être pas pousser, il y a des problèmes. Et puis les Italiens, y avait des annonces, ça je l'ai découvert un peu plus grand, mais vous aviez des restaurants, des offres d'emploi où c'était marqué « Italiens s'abstenir ». Idem pour des logements. Alors aujourd'hui, les Italiens, c'est des modèles d'intégration, enfin on oublie tout ce passé. Et ces mécanismes-là de rejet se reporte au fond toujours sur d'autres catégories de la population. On trouve toujours une nouvelle figure de l'étranger qui fait peur, l'étranger du dehors, ou si on le trouve pas assez méchant du dehors, on le trouve à l'intérieur. Vous avez les Tziganes, les Roms, les Juifs, les musulmans aujourd'hui peuvent être Suisses, nés ici, mais enfin ils font toujours peur. Bref, on trouve toujours cette nouvelle figure de l'étranger. Et ça c'est vrai, c'est une erreur. On a besoin toujours d'étrangers pour sentir nous, mais quand même, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, et si on peut atténuer ces dégâts, eh ben, c'est tout bon pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble d'un pays.
Je prends la balle au bon, atténuer les dégâts. Justement, la question était de savoir est-ce que la culture peut être un pont pour atténuer les dégâts. Et quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est de quelle culture on parle. Est-ce qu'il s'agit de la culture d'arrivée ou de la culture de départ? Est-ce que c'est simplement aux étrangers à adopter totalement notre culture, ou aussi à nous, peut-être à nous intéresser à leur culture à elles. Monsieur Facchinetti a dit avant qu'à Neuchâtel, on fait vraiment des gros efforts pour aller vers, et puis je crois que toutes nos initiatives pour mettre en valeur les cultures des différentes communautés qui viennent ici permettent aussi à l'étranger de mieux se sentir respecté. Et on sait que quand quelqu'un est fier de sa propre culture, il pourra beaucoup plus facilement accepter, apprendre de la culture de l'autre. Donc ça doit vraiment aller dans les deux sens. Et c'est pour ça que je pense que pour pouvoir vraiment avoir un bon dialogue, il faut être bien au clair avec sa propre culture. Nous, ici, comme Suisse, eux, comme étrangers, qu'il y ait une culture claire, et il peut y avoir un débat. Je pense pas que une espèce de grand tout. Parfois, on a un peu peur. On entend des craintes de ce fameux multiculti qui mélangerait un petit peu tout. Je crois qu'il s'agit plutôt d'avoir une interculturalité plutôt qu'une multiculturalité. Avec avoir une culture du dialogue, il s'agit pas de gommer les différences ou de faire comme si on était tous égaux, tous pareils dans ce sens-là, mais plutôt de pouvoir vraiment clairement affirmer qui on est dans le respect et dans le dialogue. Ça me semble être très important. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire à l'ILCF.
Et je vois Monsieur D'Amato.
Oui, moi, je me permets quand même de contester un peu cette position, justement pour l'amour pour le débat, n'est-ce pas? Disons, est-ce que nous partageons ici, nous qui sommes dans cette salle, tous et toutes la même culture? C'est un peu ça. Non, parce que disons, ce qui nous unit ici, peut-être, est l'appartenance au droit et au système de droit suisse. Donc, tous ceux qui sont les règles, aussi tous ceux qui sont les protections qui sont garanties par ce pays. Et pour le reste, disons, je pense pas que moi, je m'intéresse de comment des autres qui se trouvent ici dans cette salle se comportent chez eux, de quelles sont les valeurs qui dirigent leurs actions et le mènent à faire quelque chose qui va dans une ou dans une autre direction. Donc, moi, j'aurais plus une interprétation politique de notre culture et pas une interprétation qui se base sur les habitudes ou cherche de trouver un container dans lequel nous devons tous bouger dans la même manière. La culture est devenue, et je comprends que vous ne pensez pas dans cette manière, mais la culture est devenue comme un script, non? Que tous ceux qui sont de la culture A se comportent de la même manière parce qu'ils appartiennent à la culture A. Et ceux qui sont de la culture B, ils se comportent différemment parce qu'ils appartiennent à cette culture B. Et moi, je dirais, ça ne prend pas en considération les variations qui se trouvent à l'interne de toutes les communautés, non? Aussi, si, je dirais.
Oui. D'ailleurs, moi, je voulais faire un petit sondage là dans la salle. Je voulais savoir que ceux qui ont au moins un parent d'origine étrangère ou qui sont eux-mêmes d'origine étrangère, disons jusqu'à deux générations, ou qui sont mariés ou en ménage avec quelqu'un d'origine étrangère, lèvent la main pour voir le degré d'interculturalité de notre assemblée. Ah, ouais. Ben voilà. Mais je crois qu'on est dans les. On est dans les statistiques, merci. Voilà, cette petite parenthèse. Oui, alors monsieur, une question. Oui, je viens vers vous.
C'est tout simple. Je cherche d'être bref. Là, ça me fait plaisir de participer ici pour qu'on apprenne toujours quelque chose et puis j'aimerais toujours apprendre. Le professeur D'Amato, il a parlé de culture A, de culture B. Ici, je crois, excusez-moi, peut-être j'ai mal compris, mais c'est vrai, une culture élitiste, d'élite. Hein. Par contre, moi, je viens d'une culture probablement de la fabrique, où il n'y a plus de problème que vous disiez. C'est pas ça le problème. Et je trouve que l'on ne s'occupe pas beaucoup de la problématique qui se passe dans les usines, des gens qui travaillent. C'est ça. Maintenant, ici, on n'est plus d'accord entre vous, élitistes, universitaires, magnifique, vous êtes d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans les usines aujourd'hui, qui travaille là? C'est extrêmement grave. Et la xénophobie aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je suis venu ici dans les années 60 ici, et puis, je regrette, monsieur Chaland, il faut être honnête, il faut de l'honnêteté intellectuelle. L'UDC, il prône de l'assimilation, pas de l'intégration. C'est-à-dire, dans les années 60 que je suis arrivé, on nous disait à nous, Italiens, parce que la majorité des Italiens, il faut renoncer à votre culture. Nos enfants, ils ne devaient pas aller à l'école de langue et culture italienne, pourquoi on doit s'assimiler? Aujourd'hui, on raisonne différemment. Vous allez contre l'histoire, contre la dynamique des sociétés, vous voulez encore de l'assimilation. D'ailleurs, vous voyez toutes les vôtres affiches xénophobes, parce que c'est de la xénophobie que vous faites, et vous êtes ici, en parterre, et vous parlez, vous avez l'intelligence, et vous êtes très intelligent au DC, d'après le parterre que vous avez un discours. Par contre, ailleurs, vous avez un autre discours. La réalité, c'est que vous ne voulez pas d'intégration. Vous voulez avoir des bras pour travailler, mais ces bras pour travailler doivent s'assimiler. Mais je vous dis non. C'est pas un passeport rouge qu'on fait l'intégration. On peut être intégré et avoir un passeport national, de nationalité qu'on veut. C'est pas pourquoi on donne en Suisse des passeports rouges à des gens riches, qui ne participent pas à la société neuchâtelois ou bien suisse, mais ils ont le passeport rouge. C'est pas ça l'intégration. Alors, je crois que, l'honnêteté intellectuelle de dire ces choses comme ça. Et j'apprécie toujours les personnes qui ont le courage de dire des choses, même si politiquement je suis contre vous, contre l'UDC, mais au moins je l'admire qui dit qu'est-ce qu'il pense. Vous ne voulez pas l'intégration, vous voulez de l'assimilation et soit doit toujours refuser. Je termine. On voit par exemple les dernières les votations qu'on a eues. Vous êtes contre l'éligibilité. Vous, au niveau fédéral, vous, à 1er janvier 2018, pour être nationalisé, c'est encore plus dur qu'aujourd'hui. Alors vous durciez toujours ça. Et maintenant, vous venez ici dire, à nous, on est pour l'intégration. Non, vous n'êtes pas pour l'intégration. Au contraire, vous n'êtes pas de naturalisation. Vous êtes la troisième génération. Vous êtes contre. Même des gens qui sont nés ici, ils ont participé ici, ils sont à l'école ici, l'université ici, vous êtes contre. Alors, dites la vérité au moins. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît.
Oui, alors...
Voilà, je crois que vous êtes bien interpellé.
Bon, même si je suis UDC, je ne partage pas non plus tout ce que fait ce parti. Et personnellement, je peux le dire ici, ce n'est pas un secret, pour la naturalisation facilitée de la troisième génération, j'ai voté oui. Je pense que le 21e siècle... Alors, c'est vrai que on veut... Enfin, beaucoup d'UDC veulent plutôt assimiler plutôt qu'intégrer. Et puis, il est clair que... il y a aussi une certaine branche du parti qui veut donner des passeports, distribuer des passeports aux gens riches parce qu'ils ont de l'argent. Et puis après, les gens qui sont un petit peu moins riches, on veut juste qu'ils travaillent et puis le reste, on s'en fout un peu. Je suis pas forcément de cet avis-là. Je pense qu'au 21e siècle, on doit s'ouvrir, j'entends, au monde. On voit les flux migratoires maintenant qu'on vit pas toute sa vie dans le même canton, dans le même village, dans la même maison. Ça a beaucoup plus changé qu'au 20e siècle ou qu'au 19e siècle. Et je crois qu'on doit vraiment s'adapter à ça. Et on doit, pour moi personnellement, avoir ce discours, pas d'assimiler, mais vraiment d'intégrer les gens pour vivre plutôt en harmonie et pouvoir se développer tous ensemble.
Donc c'est pas du tout la vision de l'UDC que vous représentez ce soir.
Pas forcément. Oh,
pas forcément. Oui, monsieur.
J'aimerais.
Oui, oui monsieur Facchinetti, puis après on retourne. Allez-y. Allez-y, monsieur.
J'oublie pas mon idée, je la dirai tout à l'heure.
D'accord. Oui, il y avait ici une question, et puis après derrière, monsieur.
Moi, j'avais une question un peu à l'ensemble. Quels sont, selon vous, les principaux vecteurs pour l'intégration culturelle et sociale d'un migrant ?
Ouais, je profite de prolonger la question parce que j'avais aussi voulu aller dans ce sens. Quelles étaient les différentes, peut-être, manifestations, initiatives, événements que vous avez eu l'occasion de peut-être de soutenir dans le cadre d'une meilleure intégration par la culture. Donc je prolonge un peu la question de monsieur. Voilà, une question ouverte. Qui veut se lancer ? Madame Banissa.
Oui, je veux juste dire que la base, c'est qu'il y a une égale dignité et que l'étranger qui arrive ici se sent reconnu en tant que, voilà, égal à celui-là qui accueille. Donc, l'égale dignité, c'est la base. Puis après, je pense que l'intégration, elle est facile à faire. Mais on doit être reconnu comme ayant des droits fondamentaux et puis qu'on nous laisse aussi l'espace pour participer à la vie politique, à la vie économique, sociale, qu'on soit pas exclu comme ce qui se passe par exemple en France avec les banlieues où on voit que beaucoup de générations de d'étrangers surtout d'Afrique du Nord ont été relégués à la périphérie et que aucune place ne leur a été donnée dans la société.
Juste très rapidement, j'ai été sensible à ce que vous avez dit, monsieur. Dans les usines, on fait quoi ? C'est vrai, vous avez raison. On est entre intellectuels ici, donc c'est facile de.
Enfin,
c'est pas une injure. Hein.
Élite politique.
Élite politique. Bon, mais en tout cas, aucun de nous ne travaillons dans une usine, et c'est vrai que là, il y aurait vraiment quelque chose à faire pour ça. Donc, alors là, moi, je me sens totalement démunie. C'est très facile de parler de culture à l'université avec des étudiants étrangers. On a de la chance, c'est vraiment facile. Mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour les autres milieux. Puis alors là, c'est pas de ma compétence.
Monsieur D'Amato, peut-être par rapport à la remarque de Madame Scoupiègne. Par
oui,
rapport à, est-ce que vous avez fait des études dans les milieux
plus
ouvriers ?
On fait seulement des études.
Oui, mais dans les milieux dont parle monsieur, dans les usines.
Mais oui, l'idée, oui. C'est qu'est-ce que se passe avec les gens qui sont marginalisés dans le procès de l'emploi, comment est-ce qu'on peut le réinsérer ? Et, disons, à la fin, il faut se poser la même question à nous tous, comment est-ce que nous sommes intégrés ? Par l'école. On va à l'école, on reçoit une qualification qui nous amène au marché de l'emploi. Après, on travaille et on cherche à travailler durant les différentes décades qu'on peut travailler sans avoir des interruptions. Et si on y arrive à la retraite, donc on a fait une bonne vie. Et si ça se passe pas, alors on a des ruptures qui ont des conséquences pour les phases qui suivent. Et si on vient à l'âge de 25 ou de 30 ans, il y a les différentes phases qui manquent et donc qu'il faut ou récupérer ou compenser différemment. C'est un peu ça. Et ça se passerait avec nous tous si les compétences que nous avons, les qualifications, ne sont pas acceptées dans un lieu où on y va. Si on est suisse, naturellement, on a le grand avantage d'avoir des qualifications qui sont reconnues. Si on vient d'autre part, ça ne se passe pas de cette manière, alors il faut s'adapter. C'est un peu ça, disons, raconter assez simplement la manière de comment les systèmes sociaux fonctionnent dans le monde industrialisé.
Il y avait une question au fond.
Oui, je crois qu'on est tous d'accord ce soir sur la différence qu'il y a entre intégration et assimilation. Hein ? Il est clair que
pour un étranger qui arrive en Suisse, s'intégrer, c'est pas épouser la culture de son pays d'accueil et renier ses valeurs, mais c'est trouver un mélange entre son pays d'origine et son pays d'accueil. J'ai beaucoup apprécié les propos de Madame Banissadre, qui est, je crois, parfaitement intégrée ici à Neuchâtel, mais qui garde profondément en elle les valeurs de son pays d'origine et de ses ancêtres. Ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est la façon dont la culture, en tant que pratique sociale, peut permettre à un étranger de s'intégrer dans notre société. Ce que je constate en ville de Neuchâtel, c'est qu'il y a pas mal de communautés étrangères qui développent des activités artistiques en relation avec leur pays d'origine. On a une communauté portugaise qui a un groupe folklorique, on a une communauté espagnole qui présente des danses de flamenco, il y a une communauté africaine qui organise un film, un festival de films d'Afrique. Donc il y a pas mal de communautés qui essayent d'apporter ici, en ville de Neuchâtel, des éléments culturels de leur pays d'origine. Mais ce qui m'intéresse, et la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est, il est évident pour tous que la pratique d'une activité culturelle est un facteur d'intégration. Je me pose la question tout à fait concrète, si j'étais africain, noir, et que je savais assez bien jouer de la trompette, et que je m'approchais de la fanfare du village pour essayer d'en faire partie et de m'intégrer dans ce village, est-ce que cette fanfare serait en mesure de m'accueillir et de contribuer à mon intégration? Je vous pose la question, c'est valable pour la fanfare du village, c'est valable pour la chorale du village, c'est valable pour pas mal d'acteurs culturels.
Alors, je ne sais pas si vous voulez commenter cette remarque. On aurait peut-être tendance, vu la description du personnage, à entendre Armstrong ou bien voilà un jazzman noir. Et s'il se met à faire, du cor des Alpes, ce serait peut-être quand même plus étonnant. Est-ce que vous, je ne sais pas si cette remarque vous interpelle.
En tout cas, je peux peut-être prolonger avec ce que je voulais dire avant, mais oui. Qui est peut-être pas si éloigné que ça, pour dire que bon, on focalise beaucoup sur l'intégration, assimilation, ou alors non problème intégration. Et c'est vrai que, au fond, si on est suisse, est-ce que vraiment dans le quotidien, on se dit, voilà, moi, Suisse, je suis intégré ou pas intégré? Le mot même fait pas partie de la manière qu'on a de se penser comme être humain. Et un Français en France, un Italien en Italie, se pose pas tous les jours en se réveillant la question de savoir s'il est intégré. C'est un débat politique, celui-là. Et, au fond, qu'est-ce qu'on veut dire par intégration? On veut dire beaucoup de choses. Mais au final, c'est participer d'une manière ou d'une autre en s'ajustant les uns et les autres dans une société. Donc, au fond, l'intégration, c'est d'abord un processus, c'est une solution pour arriver à quelque chose, c'est pas une finalité. Puis le contraire de l'intégration dans la société, c'est quoi? Ben, c'est la marginalisation, c'est l'exclusion, c'est la mise à l'écart. Donc, quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une société où tous les gens qui y sont participent ensemble à penser le devenir de soi et des autres dans une communauté de destin? Et là, ça convoque à la question des droits politiques. Est-ce que seuls les Suisses peuvent décider de leur avenir, ou d'une manière ou d'une autre, on permet, alors en simplifiant la naturalisation, d'élargir le cercle des citoyens, ou alors en donnant des droits de vote à des étrangers, une catégorie d'entre eux. Mais surtout, ce qui est fondamental à mes yeux, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut ensemble. On est dans un pays qui a une constitution, qui a des lois, elles s'appliquent à toutes et à tous. Et puis là, on a beaucoup de liberté. On a la liberté de la langue, en Suisse, on peut parler de la langue qu'on veut, sauf que l'État, lui, communique dans les langues officielles, et c'est normal, et c'est bien. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler d'autres langues, donc au fond, le plurilinguisme est aussi un élément important. Donc moi, ce qui me paraît central, c'est aussi sur les questions culturelles, au fond, qu'on ait une sorte de folklorisation par les communautés étrangères de cultures, voilà, qui sont un peu réifiées ici, pourquoi pas, c'est pas gênant. On est un peu dans la folklorisation parfois. Par contre, ce qui est important, c'est que, au fond, de manière libre,
les personnes ou les groupes issus de la migration ou pas puissent participer à l'offre culturelle existante, que ce soit une fanfare, que ce soit tout, d'autres modes d'expression. Et puis là, ou dans les institutions publiques, les musées, les concerts, ben, tout ça est ouvert. Alors on le voit, il y a des lignes de démarcation. Ben, les musées, ben, toute la population suisse et toute la population étrangère n'y va pas. Il faut des efforts importants pour se rendre accessible, pour faire de la médiation, mais ça marche pas. Festineux, je vous trouverai beaucoup plus de monde. Enfin, voilà, il y a comme ça des éléments qui rassemblent et d'autres qui distinguent un peu. Voilà, c'est un peu le propre des sociétés. Moi, ce que je retiens, qui me paraît assez fondamental, c'est cette expression qui m'a toujours beaucoup plu, latine, ubi bene, ubi patria. Là où je me sens bien, là est ma patrie. Ça signifie que on peut prendre racine où que ce soit, pourvu qu'on s'y sente bien, et on ne peut pas se sentir bien tout seul. On se sent bien quand on est relié à d'autres. Et ça, je crois que c'est fondamental, parce que pour être bien avec les autres, on doit penser ensemble comment on veut vivre ensemble et vers quoi on veut aller.
Alors, moi, j'aurais juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, parce que, évidemment, on parle d'intégration, on parle donc de faire des activités sociales avec les autres, mais si on prend des gens timides, enfin, je veux dire, il y a des Suisses timides, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être forcément avec les autres, qui cherchent juste à rentrer chez eux et à être avec leur famille. Alors, dans les critères, par exemple, de naturalisation, dans certaines régions, dans certaines communes, on demande, voilà, est-ce que cette personne est digne de recevoir un passeport parce qu'elle ne participe à aucune activité sociale, elle ne fait partie d'aucun club dans sa commune. Voilà, moi, ce que je connais des familles, on pourrait retirer le passeport suisse, hein, parce que voilà, il y a des gens qui font juste leur vie de famille et qui payent leurs impôts et qui vont au travail. Et ça les empêche pas d'être des Suisses. Alors, comment est-ce qu'on trouve la juste balance? Et puis après, je reviens aux questions de Nassim.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas la juste balance. Donc, il y a, disons, dans notre imaginaire, il y a une Suisse idéale, non? La Suisse idéale est un pays républicain dans lequel les gens sont actifs, s'intéressent à la politique, s'engagent pour la politique et sont toujours actifs. Si on regarde les votations ou les élections, on le sait que, disons, la moitié, peut-être même plus, ne le font pas. Donc, nous avons cet imaginaire fort d'une Suisse républicaine dans laquelle les gens s'engagent et partagent pour le bien commun tout, mais il y a aussi une Suisse réelle dans laquelle, disons, les gens s'occupent d'eux-mêmes, s'intéressent certaines fois, d'autres fois ne s'intéressent pas, qui peut-être sont intéressés aux questions de la politique, mais peut-être aussi du loisir, d'autres questions, et utilisent ces libertés. Donc, moi, je dirais que dans des systèmes libéraux, on a aussi le droit de ne pas devoir s'intéresser.
Oui,
j'ai un exemple pile poil qui correspond à ce que vous dites. Et ça va rejoindre ce qu'a dit le président du Grand Conseil, que je trouve quand même très important en termes de communication. On m'a présenté une situation il y a quelques années d'un monsieur qui vient d'Amérique du Sud, du Venezuela, et qui voulait se naturaliser suisse. Et puis il habitait une commune, petite commune, et puis ben voilà, dans préavis négatif de la commune parce que membre d'aucune société locale, puis on le voyait jamais dans le village et encore moins quand il y avait la grande fête du village. Voilà. Puis il était venu me voir en me disant mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Puis commence un peu à creuser. Mais le type, il bossait dans un hôpital et comme il était célibataire, ben il se tapait tous les horaires de week-end et tous les horaires de soirée. Donc évidemment, la vie dans le village, on le voyait pas beaucoup. Mais par contre, à l'hôpital, il présidait les commissions d'animation, il faisait toutes les fêtes à l'hôpital pour le personnel et pour les patients et pour les parents des patients qui venaient. Bref, un engagement, je dirais, pour la société, bien au-delà de son engagement. Voilà. Eh bien, simplement parce qu'on le voyait jamais, on s'est dit, le gars, il n'est pas intégré. Et ben voilà, en communiquant, là, ça rejoint ce que disait le président du Grand Conseil, quand même, des fois, ça vaut la peine, enfin, je dis des fois, petit côté un peu neuchâtelois, comme ça, avec l'accent, il convient de prendre toujours langue avec les interlocuteurs et de leur demander qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, avant de projeter sur eux des a priori.
Oui, une question.
Oui, je voudrais un petit peu donner un témoignage parce que dans ma famille, j'ai 4 grands-parents
émigrer ou immigrer de l'Italie. Donc j'ai vécu vraiment toutes ces questions d'intégration possibles et imaginables. Mon père, donc de deuxième génération, était ouvrier et il s'est fait naturaliser, il a pu se faire naturaliser en 1919, alors qu'il avait 19, il avait une trentaine d'années à peu près. Et deux ans plus tard, il entrait comme député au Grand Conseil. Sept ans plus tard, il était président du Grand Conseil, en 1930. Voilà, une certaine intégration sur le plan politique que j'ai fortement ressenti, puisqu'il s'agit de mon père. Et en plus, mon père... Alors, un point sur lequel je voudrais insister, je n'aime pas beaucoup cette espèce de distanciation qu'on fait entre culture qui est réservée à une élite et le monde ouvrier qu'on laisse un petit peu de côté et qu'on se dit « il n'a pas besoin de culture, c'est les ouvriers, ils n'ont pas besoin de culture ». Alors, mon père avait créé à l'époque le Centre d'éducation ouvrière. Justement, pour lui, l'accès des ouvriers à la culture était absolument fondamental pour leur promotion. Bon, il était secrétaire syndical après. Mais voilà, disons, un petit peu l'histoire de ma famille, si vous voulez, qui représente une j'ai vécu dans ma famille, au fond, toutes ces phases de l'intégration. Et moi-même, je ne suis pas un ouvrier. Et pourtant, voilà, je pense que j'ai beaucoup de culture. J'ai une culture qui est largement alimentée par une passion que j'ai, qui est la passion de mon pays d'origine, c'est-à-dire de mes grands-parents, par l'Italie. Mais j'ai aussi une culture française, parce que nous sommes francophones et nous avons un échange très fort avec la culture française. Et je me sens parfaitement bien dans le Jura suisse. Je me sens beaucoup plus proche du Jura et de l'Italie que du canton d'Appenzell, par exemple. Donc, la culture, elle n'est pas que liée à une nation.
Je ne sais pas si vous voulez apporter un commentaire, parce qu'il y a beaucoup de questions et de remarques. Alors, on poursuit après ce témoignage. Il y avait monsieur. Voilà.
Bonsoir. Je commencerai déjà par un témoignage. Vous savez, je suis arrivé en Suisse il y a une trentaine d'années. Et puis, quand j'ai commencé mes études à l'université, on avait la chance à l'époque, à l'université, que pendant les vacances d'hiver, on nous avait mis à disposition un professeur pour aller faire du ski à Engelberg, je me rappelle très bien. Et puis, c'était vraiment destiné aux étudiants étrangers, histoire de leur dire, vous êtes en Suisse, c'est bien de voir un peu comment ça fonctionne sur les pistes de ski. Alors, c'était pas drôle, je vous dis. Et à l'époque, je m'étais engagé justement, je me suis dit, pourquoi pas? Je pensais pas que 30 ans après, je vivrais en Suisse. Et bon, voilà, juste vous dire que quand vous arrivez et que vous commencez les études et qu'on vous accueille de cette manière-là, c'est juste génial. Mais, bémol, quelques années après, je termine mes études, je voulais devenir professeur. Je me présente devant un conseiller et puis quand je lui dis ça, il a éclaté de rire. Il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, vous savez, ouais, il y a quand même pas ça mal de choses qu'on peut faire, mais professeur, c'est un peu plus compliqué. Je ne comprenais toujours pas. Enfin, j'ai bien compris, j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Et finalement, je lui ai fait comprendre, vous savez, je suis déterminé, je veux être prof, et je le serai. Et je suis devenu prof 20 ans plus tard. Du moins, depuis plus qu'une vingtaine d'années. Tout ça pour dire que si on n'est pas déterminé, et je le suis, on peut vite flancher selon sur qui on tombe, selon ce qu'on a envie de faire dans ce pays, qui est quand même le mien, parce que j'ai vécu plus de temps de ma vie en Suisse que de mon pays d'origine. On a la chance ici d'avoir M. Thomas Facchinetti, qui a beaucoup fait pour l'intégration. C'est une chance énorme qu'on a. Et je crois que aujourd'hui on ne peut que le remercier. J'ai vu mon parcours, j'ai vu tout ce qu'il a fait aussi dans ce canton de Châtel. J'ai un souci aujourd'hui par contre par rapport à la politique d'intégration au niveau du canton. On sait que le canton va mal, très très mal au niveau financier. Donc on veut quand même faire mieux avec moins de sous. Alors pour moi, évidemment, au moment où il y a un brassage de population, les gens viennent d'un peu partout, et je pose maintenant la question aux personnes qui sont donc sur la table, sur les, par rapport aux intervenants, pardon, et en particulier à M. Thomas Fekinetti, quelles sont vraiment les perspectives au niveau de la politique d'intégration avec les moyens du canton qui diminuent de plus en plus? Merci.
Oui, alors ça demande effectivement une réponse par rapport à la politique économique.
Bon, les moyens financiers, c'est toujours important, mais quand même, ce qui me frappe, et qui est plus important que tout, et ce Mohamed Bass l'a dit lui-même, c'est aussi la volonté, c'est la détermination. Et maintenant, il est devenu non seulement enseignant depuis fort longtemps, mais il est aussi devenu excellent skieur et un très bon footballeur. Mais, disons, c'est aussi ça quand même. Il y a aussi une question, je dirais, sociale d'abord. Si dans la population, si les gens, vous, moi, au fond, avons envie de faire de la place, d'aller à la rencontre, ben ça c'est fondamental, et l'État peut mettre tous les moyens qu'il veut, si dans la population il n'y a pas une certaine disposition à l'ouverture, eh bien c'est cote, hein, on fait rien. Donc l'argent des pouvoirs publics peut servir à orienter les comportements des gens, ça peut servir à faire des campagnes d'information, des campagnes de l'organisation de rencontres. Évidemment, une soirée comme celle-ci, ben c'est bien que l'université mette des moyens pour qu'elle ait lieu. Faut bien qu'il y ait de l'argent, on est d'accord. Et ça, c'est important. Mais enfin, tout ne passe pas par là. On aurait pu se rencontrer dans un autre cadre, avec un peu moins d'eau dans les verres, et puis peut-être un flyer un peu moins joli, c'est aussi possible. Et c'est là, je crois, qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une lutte quand même à avoir, et lorsque les pouvoirs publics, ben, pour X raisons, ont une action limitée, ben, c'est aussi une réponse citoyenne de toutes et tous à prendre le relais. Alors voilà, je suis pas en train de prôner le bénévolat, je dis juste que voilà, on lutte, et puis c'est pas simplement l'État qui fait tout, d'autres peuvent aussi faire. Et puis lorsque l'État est en panne, eh bien des citoyens peuvent prendre le relais, des groupes, et puis les communes aussi, et puis la Confédération fait quand même aussi des efforts. Bref, je vois pas les choses de manière si catastrophique, en fait, pour le canton de Neuchâtel. Ce qui est important, c'est de garder la volonté et puis quand même quelques moyens. Je crois savoir que dans le budget 2017 de l'État de Neuchâtel, on n'a pas coupé les ailes des mesures d'intégration. On les a peut-être réduites. On crée des pressions. Peut-être qu'il y a un peu de bureaucratie parce qu'on contrôle un peu plus ce qui se fait. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être corrigées et qui doivent l'être. Mais j'aimerais qu'on garde intacte la volonté. Et moi, je m'inquiéterais si les pouvoirs publics venaient à dire « Non, ça nous intéresse plus du tout. Et puis, tant pis, c'est pas une priorité, l'intégration. » Alors aujourd'hui, ils disent « C'est une priorité, on a moins de moyens, mais ça reste une priorité. » C'est, je crois, déjà important.
Vous permettez que j'ajoute peut-être juste l'exemple de Français pour tous, puisque là, c'est vraiment une initiative qui est partie de la faculté des lettres. On est des bénévoles, des étudiants. Il y en a certains ici, il y a sa responsable d'ailleurs, vont s'engager bénévolement pour donner des cours de français aux requérants d'asile et aux réfugiés. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'argent pour avoir ce genre d'initiative. Donc, je voulais souligner ici le merveilleux engagement des étudiants qui permettent une intégration justement par la langue, mais aussi en les accompagnant du point de vue de la culture au sens large, des mentalités, des explications de comment vivre ici. Et là, je crois qu'ils ont des échanges assez intéressants et parfois bouleversants avec cette initiative. Donc, bravo à ceux qui s'engagent.
Français pour tous, juste en deux mots, c'est destiné à qui?
Alors, c'est pour des requérants d'asile qui sont au second accueil. Hein. Je parle sous le contrôle de... Voilà. Oui. Donc, la faculté des lettres organise ce cours. Des étudiants francophones et parfois non francophones, mais qui maîtrisent déjà bien le français, donnent des cours gratuitement aux requérants d'asile. Tout ça sous la houlette de responsables et puis sous la supervision pédagogique de l'ILCF. Mais c'est vraiment partie d'initiatives, comme on dit, initiatives citoyennes. Donc là, vraiment, bravo. Et c'est encore une fois la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour qu'il y ait ce genre d'initiative d'intégration.
Merci. Il y a vraiment beaucoup de questions.
Bonsoir. On parle toujours de l'intégration, mais je ne sais pas pourquoi elle parle. L'assimilation, la ségrégation, la séparation. Mais moi, je trouve qu'il y a en Suisse, il y a toujours une certaine caisse pour les étrangers et l'intégration pour les autorités, c'est de remplir cette case et pas plus. Ça veut dire si vous demandez plus, il y aura les problèmes. Mais j'ai toujours, bon, je demande, je trouve que les gens parlent toujours de l'intégration et ils répètent les mêmes questions, y compris la question de cette conférence, par exemple la place de la culture. Mais je me demande, est-ce qu'il y a la place pour l'intégration dans la culture suisse? Et je trouve que non. Et je ne sais pas, selon mon expérience, l'intégration d'étrangers est interdite en Suisse. Selon seulement mon expérience, je suis un réfugié et j'ai commencé, ça veut dire, j'ai commencé mes études à l'université de Neuchâtel quand j'étais un demandeur d'asile et j'ai postulé un candidature pour le prix Sali à l'étranger quand j'étais un demandeur d'asile. Ça veut dire, malgré maintenant, je suis un réfugié et j'ai besoin de 10 ans pour être un étranger, pour être reconnu comme un étranger. Je ne sais pas quel statut j'ai maintenant. Mais je ne sais pas, pour résumer, je trouve que, par exemple, quand même, d'accord, je me suis inscrit à l'université de Neuchâtel après beaucoup de combats avec les Suisses, avec les lois suisses, malgré que, par exemple, mes documents ont été acceptés pour un doctorat, et les mêmes documents ont été acceptés pour un doctorat à l'université de Lausanne et en Angleterre, mais les mêmes documents ont été refusés à Neuchâtel, pas à cause de mes compétences, mais à cause de le pays où je viens, qui est la Syrie. Je trouve que le COSM est une catastrophe. Je trouve que l'LCF, c'est une catastrophe. Le structure est... Et j'ai déjà parlé avec plusieurs... Il y a quelques personnes avec lesquelles, y compris le recteur de l'université de Neuchâtel, elles sont au courant, mais je ne sais pas. Parce qu'on toujours, on travaille sur une image... Une image pour dire que l'LCF est bon, il fait bon, le COSM est bon, il fait bon, parce qu'il y a une image qu'on arrive à le vendre. Et je trouve que, y a compris, cette conférence, ça fait partie d'une publicité pour dire que tout ça bien, mais la réalité est catastrophe. Merci.
Bon, oui. Alors, je crois que ça demande quand même une réponse. Ça demande quand même une réponse, un commentaire. Bon, moi, j'ai plein de contre-exemples aussi, même de personnes qui sont... Vous me parliez de culture et de pays lointains. Moi, j'ai un nom qui me vient et qui n'est pas du tout de Neuchâtel. C'est Omar Porras, qui est actuellement un des leaders du théâtre roman. Je ne sais plus quelle direction il a pris. Je crois que c'est le théâtre de Vidi sauf erreur. Mais c'est un monsieur qui est arrivé il y a peut-être une trentaine d'années à Genève. Il jouait dans un garage, dans un squat. Et je suis allé voir un de ses premiers spectacles. Il venait de Colombie et il est venu juste avec son art et son baluchon. Et il a tellement scotché la vie culturelle genevoise qu'il a provoqué un vrai séisme et qu'il s'est institutionnalisé carrément. Donc il y a vraiment des contre-exemples. C'est toujours un peu individuel, mais je pense que il y a peut-être du vécu personnel, mais je pense pas qu'on puisse généraliser. Maintenant, concernant l'ILCF,
ouais, moi je crois qu'on va pas entrer dans le débat. Est-ce que l'ILCF est une catastrophe ou pas? Il y a beaucoup d'autres étudiants ici qui seront pas d'accord. Je crois que c'est des questions de vécu personnel, effectivement. Donc on va laisser ça niveau personnel.
On va toujours discuter après. Monsieur, vous aviez une...
Oui, ben ça tombe bien ma question. Je voulais revenir un peu à la question de Monsieur Devant. Enfin, ça, je vais un peu rebondir sur tout. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage la semaine passée sur Arte sur l'intégration réussie. Si quelqu'un a vu, c'est sur différents pays, en France, en Allemagne, en Angleterre et tout. Je vous fais un bref résumé, puisqu'apparemment, voilà, bref. C'était un peu tard le soir, je pense que voilà. Si vous voulez une intégration, grosso modo, ce qui ressort de cette étude, c'est que l'État ne doit pas s'impliquer dans l'intégration des gens, dans l'intégration en elle-même. Pour les étrangers, c'est déjà avoir accès à la formation, avoir accès à un logement, avoir accès à un emploi. Et c'est là une des grosses questions, un des gros problèmes d'inégalité. Et ce qu'il y a eu comme reportage, je m'en rappelle, je sais plus la ville, hein, aux Pays-Bas, où, ben, effectivement, il y a le maire qui, effectivement, après X années, s'est fait élire. Il a fait entrepris des choses, c'est pour ça que je rebondis un peu aussi sur la question des formations. Il y a eu des investissements au niveau de la formation pour les enfants dans les crèches, et il y a une très bonne intégration de cette communauté, et c'est un quartier qui est devenu très moderne. Tout ça pour revenir un peu, pour être provocatoire comme votre thématique, en disant finalement une bonne intégration, ça passe déjà par une intégration économique, et la culture vient après. Donc j'aimerais peut-être avoir une réaction de votre part par rapport à ça, parce que moi la culture c'est très bien, plus je suis ethnologue, donc les définitions, je vous en tiens un peu rigueur madame, mais voilà.
Moi je pense pas qu'on puisse dire dans l'intégration c'est d'abord ci, après ça, comme s'il y avait un chemin linéaire, pas du tout. Je pense que l'intégration, c'est multidimension, c'est multifacette. Et puis, à un moment donné, ben, on peut être super bien intégré professionnellement et complètement rejeté socialement, culturellement, parce que, ben, voilà, parce que vous êtes musulman. Et puis, vous avez beau avoir tous les diplômes, tous les doctorats, avoir un job et tout. Lorsqu'on sait que vous êtes musulman, là, on vous met de côté. Et puis, lorsque vous baladez avec votre femme, puis que peut-être elle a un voile, ben, on se dira, ça y est, c'est un intégriste, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis, donc voilà, je ne crois pas une seule seconde que ça corresponde à la réalité humaine et à la réalité sociale que l'intégration est un parcours lisse, fait d'étapes que l'on peut comme ça accumuler les unes après les autres. Alors ça, oui, dans les lois, on le fait comme ça. Hein, vous avez tous les permis, permis B, naturalisation, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas la réalité des gens. Et puis moi, je trouve qu'il y a une forme de... Évidemment que les destins singuliers... Enfin, immigrer en Suisse aujourd'hui, c'est quand même un parcours du combattant si vous n'êtes pas européen. Enfin, on ne peut quand même pas nier la réalité que lorsqu'on n'est pas européen, à moins vraiment d'être voulu économiquement par la Suisse, vous devez livrer un parcours du combattant. C'est dur, c'est dur. Et c'est un parcours qui est semé d'embûches. Et lorsque monsieur dit, évoque son parcours, bah, c'est là une réalité. C'est pas simplement, et c'est pas la réalité d'une seule personne. C'est une réalité sociale qui existe. Et il y a beaucoup d'embûches à ce qu'on peut appeler l'intégration. Et finalement, si ce soir, on peut parler de ça et qu'une personne qui a un parcours qui a été semé d'embûches peut le dire, qu'il trouve qu'il y a des catastrophes quelque part et que ça ne va pas, son appréciation lui appartient, mais il peut le dire. Et rien que ça, je trouve que c'est quand même un espace de liberté, c'est un espace où on accueille des gens qui peuvent dire des choses qui font pas plaisir, mais c'est ça aussi le débat démocratique, et je pense que rien que ça, c'est précieux. Voilà. Donc vous avez raison de vous exprimer, monsieur, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec vous, mais ici vous avez une place pour le dire, et rien que ça, je pense que ça vaut quelque chose.
Vous voulez, oui. Alors madame, vous avez une question ?
Alors c'est pas forcément une question, mais je voilà, ayant un sens de la ponctualité, encore pire que Thomas Farkinetti, j'ai pas entendu la définition de la culture au début, donc vous me pardonnerez de pas pouvoir faire allusion à ça. Mais ben voilà, dans mon métier de musicienne, je suis confrontée à énormément de gens différents, de provenances différentes, ici et ailleurs. Parfois j'amène entre guillemets ma culture ailleurs, parfois je partage simplement ma culture, qui est par hasard la culture que j'ai parce que je suis née à un endroit, parce que j'ai fait les rencontres que j'ai faites, je les partage ici. Et c'est dans les échanges que ça se passe. Et voilà, je rebondis sur ce que disait Patrice Neuengender par rapport aux fanfares. J'ai côtoyé des tonnes de fanfares. Je n'ai jamais vu une personne de couleur dans les rangs, je dois avouer. Par contre, on parlait de Schwarzenbach il y a quelques instants, mais on vient de voter sur, on vient de, d'accepter maintenant le, voilà, pour la troisième génération, donc on sent qu'il y a des choses qui avancent. Par rapport aux fanfares, j'ai enseigné dans 6 écoles de fanfares à travers la Suisse romande. Dans toutes les écoles de fanfares, il y avait des gens d'origine, différente qui venaient d'arriver en Suisse. Donc, d'ici 50 ans, je pense que dans les rangs des fanfares, il y aura des gens de blanc. Voilà. Donc voilà, par rapport à partager la culture, je parlais que, voilà, que je jouais devant des gens très différents. Mes publics les plus difficiles, voilà, c'est de jouer devant des gens qui sont intéressés que par le fric et par rien d'autre. Et ça, parfois, c'est, voilà, c'est souvent des passeports helvétiques et rien d'autre. Donc ça, c'est pas une question de passeport, mais plutôt d'une question d'intérêt, dans tous les sens du terme. Un autre public difficile, c'est quand je vais jouer dans les prisons. Et ça, c'est toujours des grands moments d'émotion. Ça, c'est des moments de partage. Le plus beau compliment que j'ai jamais reçu en faisant de la musique, c'était dans une prison. C'était des gens, en l'occurrence, en majorité suisses, en majorité de, ou en tout cas ayant grandi ici. Et je jouais une sonate baroque qui dansait. Et à la fin, il y a un des détenus qui a dit « Yes !» Et là, quelque part, culture ou non, je m'en fiche, mais il y a quelque chose qui a passé, il y a un échange qui s'est fait. À la fin de ce concert-là, d'ailleurs, certains détenus ont pris leur instrument et nous ont joué un concert avec la musique qu'ils avaient travaillée et appris, eux, pendant leur détention, comme remerciement pour ce qu'on avait fait. Et ben voilà, ça, c'est des moments tellement précieux. Voilà.
Merci pour le témoignage. Il y avait une question dans la salle.
Je crois qu'on a abordé la question des religions entre-temps. Et peut-être que le monsieur qui a eu tellement de difficultés en venant de Syrie. Alors moi, je viens pas de Syrie, je viens du sud-ouest de la France, de la minorité protestante du sud-ouest de la France. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis rentrée par la porte la plus facile, entre guillemets, puisque je me suis mariée avec un Zurichois. Alors là, je vous dis pas le choc venant directement des Pyrénées à Zurich. Eh bien, j'ai vécu 20 ans là-bas. Und ich hatte Deutsch. Und das. Voilà. Mais je suis protestante de culture. Et je venais d'une minorité où le pasteur était payé au SMIG, comme on dit, le salaire minimum, et il ne pouvait survivre que grâce à une communauté qui le portait. Et quand il y avait un étranger qui arrivait au culte chez nous, il était invité dans toutes les familles. J'arrive à Zurich, l'église et l'État ne sont pas séparés, je vais au culte, et là je vois le pasteur qui... Dès qu'il a fini son culte, il part par la porte de derrière. Et moi, je téléphone à mon père. Tu sais, la première fois que j'étais au culte, eh ben le pasteur, il m'a pas salué. Et mon père de me répondre, et toi, tu as salué quelqu'un? Voilà. Et maintenant, je me retrouve à Neuchâtel. Là, c'est encore une autre culture protestante. Je voudrais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est toujours, partout où nous sommes, nous avons affaire à des êtres humains. Et cela dépend chacun de nous si nous voulons que les étrangers soient intégrés chez nous. Et d'abord, accueillir dans chacun de nos milieux. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire.
Merci bien pour le témoignage. Oui. Est-ce que vous voulez apporter un commentaire les uns les autres? Peut-être. Oui, Thomas Facchinetti encore. Oui.
Ouais, je veux pas.
Ouais, allez-y.
Puisqu'on passe de Zwingli à Farel, qu'on est dans les questions de religion, je me faisais la réflexion suivante. Il y a, je pense, une dizaine d'années maintenant, il y a le mouvement scout neuchâtelois a fait quelque chose que j'ai trouvé assez exemplaire. Et ça m'a d'autant plus intéressé, intrigué que j'ai fait le malheur de ma maman parce que j'ai pas voulu être scout, parce que je voulais pas avoir l'uniforme, ça me gênait. Donc ça m'intriguait parce qu'en fait, il s'est créé à Neuchâtel un groupe scout musulman. Et bon, voilà, moi, je suis pas très connaisseur du mouvement scout international. Je savais que ça existait, mais au fond, j'ignorais que il y avait dans beaucoup de pays musulmans du scoutisme et des groupes qui existaient. Et puis là, voilà, un centre islamique s'est dit, ben, comment faire pour offrir des activités à nos jeunes? Eh ben, on crée un groupe scout. Et puis ils sont constitués. Et puis ben voilà, dans la logique du scoutisme, ils sont approchés de la Fédération neuchâteloise de scoutisme pour en faire partie. Patatras. Ils se sont dit les autres, mais tiens, c'est bizarre. Puis en même temps, ben c'est intéressant. Et ils ont fait tout un processus qui a duré un peu plus d'une année pour faire connaissance. Et puis, voilà, ils ont expliqué aux groupes scouts musulmans en constitution quelles étaient les règles, que les moniteurs devaient participer à des camps de formation, que la troupe devait prendre un nom, que ce nom devait être adoubé par l'ensemble. Et puis, ben voilà, ils ont fait ce processus et finalement, le mouvement, la troupe musulmane a adhéré dans la fédération. Et depuis lors, ben voilà, ils ont leurs activités avec des camps séparés, comme toutes les troupes parfois. Et puis parfois, ils font des camps en commun. Et à Zurich, à la même époque, il y avait la question qui se posait de la même manière. J'étais intéressé justement du côté de Zwingli. Et là, la réponse institutionnelle du mouvement scout a été tout autre. Ils ont dit non, si on a besoin de jeunes qui viennent dans le scoutisme, mais on veut pas qu'ils viennent comme groupe musulman. On veut qu'ils viennent individuellement dans les troupes existantes. Bref, se fondre dans la masse. Et puis, ben, les musulmans ici, ils avaient envie quand même de revendiquer une appartenance, comme on a des troupes qui sont catholiques, protestantes, mixtes, pas mixtes, enfin, en général, elles sont toutes mixtes maintenant, ou d'autres qui ont absolument aucune affiliation religieuse particulière, et vous vouliez avoir un groupe musulman. Et ici, ça a été accepté, et à Zurich, je sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ils avaient dit non, c'est pas possible, vous devez adhérer dans chacun des groupes existants. Donc là, il y a des réponses comme ça qui sont différenciées, et là, ça touche quand même à la fois à des questions culturelles, à la fois à des questions, je dirais, de perception, d'ouverture, de fermeture ou de conception qu'on a du vivre ensemble.
Vous voulez intervenir, M. D'Amato? Oui.
Moi, je trouve cet exemple magnifique parce qu'il montre la fin de ce qu'on discute toute la soirée et ce sont les frontières qu'on est capable de tirer, n'est-ce pas? Parce qu'on peut tirer des frontières et dire ils sont très nets. Et où vous passez, ou sinon vous restez chez vous. Ou on peut dire, oui, mais à la fin, ils sont assez perméables. Donc, on peut être d'une partie, dans une côté, mais aussi appartenir à l'autre côté, non? Donc, la question, c'est, quelle est l'image que nous donnons aux frontières que nous posons dans tous les systèmes et dans toutes les cultures qu'on a discutées aujourd'hui, dans lesquelles nous faisons partie, non?
Zahra Banissadre, justement par rapport à vos origines iraniennes, est-ce que il y a eu des tensions dans votre jeunesse par rapport à vos origines? On s'est demandé, ah, elle est iranienne, elle est musulmane.
D'abord, vous savez pas si je suis musulmane ou pas.
Ben non. c'est bien ce que je dis. Ouais. C'est marrant parce qu'on
m'a jamais demandé ma religion, sauf en Suisse. Ça. Donc j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Jamais personne m'a demandé ma religion. À l'époque, personne ne savait où était l'Iran avant la révolution. Et puis, il y avait aussi le milieu dans lequel j'évoluais. Donc, c'était un milieu très engagé politiquement et culturellement. Et donc, avec des valeurs et des objectifs communs. Donc, j'ai pas connu du tout le sentiment d'être étrangère ou,
Et en Suisse, ça s'est matérialisé comment?
C'était un peu plus, c'était à Neuchâtel, en fait. C'était un peu plus difficile parce que, bon, je venais de Paris où c'était une ville très animée, très bruyante. Donc, je venais du quartier latin, puis j'ai atterri à Chaumont.
Donc,
c'était un peu dur. Puis après, je suis allée à Saint-Blaise. C'était très, très difficile. Mais j'avais pas cette intention de rester. Finalement, je suis restée parce que voilà, j'ai eu mes enfants. Et puis c'est là où je me suis intéressée à la ville. J'ai pris je me suis dit que je voulais que mes enfants aient des racines. Donc j'ai pris le temps pour m'intéresser à l'histoire de la Suisse et de Neuchâtel. Et je voulais qu'ils se sentent qu'ils aient toutes les connaissances pour bien se sentir à Neuchâtel.
Et aux enfants, vous reprochez d'avoir quitté Paris ?
Comment ?
Est-ce qu'ils vous reprochent, vos enfants, d'avoir quitté
non,
Paris ?
Non, non, pas du tout. Ils sont, ils sont très... Voilà, non, non. Ouais. Non, je ne dis pas ma religion. C'est, je trouve que c'est... Voilà, ça appartient à chacun de nous.
Ouais. Oui, monsieur.
Bonsoir. En fait, j'aimerais revenir à ce qu'il a dit, le monsieur, là, en fait, par rapport à la cause, mais la catastrophe, c'est pas toi, non. Mais en fait, il est parti avant qu'il entende la réponse un petit peu, parce que je viens du même pays. S'il est un réfugié, je suis un récurrent d'asile, toujours. Je trouve, en fait, juste l'image... contraire de ce qu'il a dit. Je remercie Monsieur Facchinetti pour sa réponse par rapport le respect qu'il a eu pour cette personne. Ça montre énormément en fait le pas vers nous pour s'intégrer à cette société. J'aimerais dire que je suis à ILCF étudiant grâce à Cosme. C'est Cosme qui me paye les cours. Je crois que par rapport à ce qu'il a dit, Monsieur Amato, bon, en fait, par rapport à être un Suisse, c'est bien respectueux. En fait, il faut bien respectueux la société où on est. Il faut vraiment faire de l'effort pour être Suisse. Avoir le passeport suisse, ça suffit pas pour moi personnellement, parce que sans avoir tous les positifs de cette société, qu'il a plein de positifs, qu'il a plein de belles choses, en fait, mais seulement avoir le passeport suisse parce que j'ai vécu 12 ans, ça a pas de sens pour moi. Je dois mériter ça. Ben, je vous remercie. Tous et toutes pour votre attention.
Alors oui, c'est la question du mérite. Des commentaires sur le mérite.
On vient de cette votation qui a eu lieu il y a 10 jours, et la question du mérite, c'est aussi une question républicaine, non? L'idée de vraiment vouloir participer à une société. Mais ici, on se trouve maintenant confronté avec... C'était la votation sur 25 000 personnes, il faut se rendre compte. Donc, on a voté sur 25 000 personnes de la troisième génération. Donc, les grands-pères ou les grands-mères sont arrivés dans les années 50, probablement, peut-être un peu plus avant. Et maintenant, on parle des grandes-filles, des grands-filles, les grands-fils de ces gens pour les naturaliser. Il y a encore une grande somme de deuxième génération dont on ne parle pas, parce que là, on présume qu'ils sont beaucoup plus, naturellement. Là, on présume que peut-être ils ont aussi des difficultés à l'intégration, malgré ou même s'ils sont nés ici et socialisés en Suisse. Donc, la question de l'intégration devient aussi une barrière pour accepter ou pas accepter des gens et pour exclure des gens. Il faut aussi réfléchir sur ces questions, non? Ou donner, disons, un barème qui est tellement haut, qui donne le signal qu'on ne veut pas vous avoir. C'est un libre choix. Il y a politiquement, naturellement, toutes les positions possibles par rapport à ces questions. Mais la question finale à laquelle il faut répondre, c'est naturellement quel est notre futur? Quelle est notre perspective par rapport à la Willensnation? Est-ce qu'on veut maintenir des gens qui vivent ici, qui maintiennent à pas avoir un rapport avec ce pays, avec notre société? Ce sont des grandes questions auxquelles, disons, la Suisse est confrontée, mais pas seulement la Suisse. C'est une grande question européenne, parce qu'il y a eu une grande immigration après la Deuxième Guerre mondiale. Et la question, c'est quel est le règlement politique qu'on veut avoir pour cet événement. Et ça a naturellement aussi des conséquences par tous ceux qui sont venus après. Donc ça, c'est le grand enjeu avec lequel on a affaire en Europe et en Suisse.
Merci. L'heure approche, malheureusement. Donc je vais demander peut-être à chacune d'entre vous de dire le mot de la fin, ce que vous avez retenu de ces discussions, quel est le message avec lequel vous aimeriez que l'audience parte de cette soirée, peut-être commencer avec Xavier Chalande. Qu'est-ce que vous retenez ?
Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé avant. Quelqu'un a dit l'État ne doit pas trop se mêler d'intégration et de culture. C'est vrai et c'est pas vrai. Je crois que l'État doit quand même fixer un cadre légal. On parlait avant du passeport. C'est vrai que c'est juste un cadre légal, le passeport, parce qu'on peut avoir un passeport suisse, français ou allemand, mais c'est juste parce qu'il faut un cadre légal. Puis je pense que vraiment l'intégration, au-delà de l'investissement de l'État, il faut que ça vienne des citoyens. Et puis on parlait avant de bénévolat, mais je crois que ça doit venir des citoyens. Et puis je crois que avant tout, c'est vraiment au mérite. Et puis on voit que si on a la volonté, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis le message que j'aimerais apporter, que tout le monde retienne, c'est que il y a vraiment des grands défis au 21e siècle, comme il y a eu des grands défis après la Deuxième Guerre mondiale, avec des dizaines de millions de personnes qui ont migré. Et c'est vraiment avec la communication et l'ouverture et ne pas ignorer les gens qu'on va réussir à relever ces défis. Voilà, c'est mon message de la fin.
Karine Skopien-Neken.
Oui, peut-être que je prêcherai un peu pour ma paroisse en disant que pour toutes les belles intentions qui ont été évoquées ce soir, il faut quand même qu'il y ait une certaine connaissance. Pour qu'il y ait une possibilité de connaissance, il faut qu'il y ait une offre de cours, il faut qu'il y ait la possibilité de connaître mieux la culture des uns des autres. Donc c'est pas seulement au niveau de l'intention, mais il faut aussi qu'il y ait vraiment une offre de très très concrète qui donne la possibilité de mieux connaître la culture d'accueil et la culture de départ.
Merci.
Comme ça a été évoqué avant, disons, il y avait les associations des ouvriers au 19e siècle, même au 20e siècle, qui étaient intéressées à transmettre des connaissances et des compétences, donc de la culture dans le sens de pouvoir participer, ainsi qu'on puisse élargir le groupe de participation dans des sociétés libérales démocratiques. Non ? Et moi, je dirais ça, si on définisse la culture comme une acquisition de compétences pour pouvoir contribuer à des sociétés, mais être aussi respecté par les gens qui sont déjà là, alors c'est quelque chose qui mérite toute notre attention. Merci.
Zahra Manizad.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Peut-être aussi vous pouvez prêcher pour vos paroisses. Allez-y.
Je voulais juste dire, voilà, comme l'a dit Thomas Fakinetti, l'accueil qui est très important, et puis aussi reconnaître à l'autre les mêmes droits, et puis donner aussi la place à l'autre qui puisse participer à la vie économique surtout, et politique, culturelle, sociale. Voilà.
Et Thomas Fakinetti pour le mot de la fin.
J'aime bien cette citation de Martin Luther King qui a dit: nous sommes condamnés à vivre comme des frères si nous ne voulons pas mourir comme des idiots.
Bravo. Alors voilà, on arrive au terme de cette soirée, excusez-moi. Je voudrais juste faire quelques annonces avant qu'on se quitte. Vous avez ici à disposition des revues sur les 125 ans de l'ILCF. C'est libre, c'est gratuit. Je vous invite à prendre de la lecture si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous rappeler peut-être quelques événements encore phares de ces 125 ans de l'ILCF. Cette exposition est à voir jusqu'au 10 mars. Et nous avons aussi une cérémonie officielle qui est prévue, et là ce sera à l'Aula des Jeunes Rives le 12 mai. Nous aurons la très grande chance d'accueillir Dany Laferrière de l'Académie française, qui viendra s'exprimer sur « Au fil du temps, ma vie est devenue une fiction », voilà le thème. Et il y aura plusieurs conférences qui suivront ensuite durant l'été. Quant au café scientifique, le prochain aura lieu le 22 mars, mais dans nos locaux habituels, donc au bâtiment principal de l'université, à l'avenue du 1er mars 26. Et là, on parlera de toute autre chose. On parlera plus de problèmes technologiques et de société. On parlera de drones. Les drones, amis ou ennemis. Donc, ce sera le 22 mars à 18h. Voilà, je voudrais encore, dans le générique de fin, mentionner la sono impeccable de Joël Morf. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Remercier la ville pour les locaux et puis remercier aussi la régie de l'université de Neuchâtel qui nous met à disposition toujours le décor des cafés scientifiques. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci beaucoup d'être venus si nombreux et continuez à venir au café scientifique. Merci.